France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Bonjour à tous et joyeux Noël. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le jour des enfants, mais beaucoup d'entre vous aussi sont chez eux, fidèles à leur rendez-vous radiophonique. Et je tiens à leur offrir mes petits cadeaux, deux entretiens avec ces artistes merveilleux qui étaient Pierre Barou et Francis Lay, co-auteurs de nombreuses chansons et complices de Claude Lelouch. Au programme également des archives d'Yvonne Printemps, Franz Léard, Pauline Carton. Et pour couronner le tout, les orchestres de divertissement de Serge et Laïc. Un vrai Noël, je vous le disais, en paroles, en musique et en chanson.
Le soir de Noël, un grand magasin, dans les mille feux de ses étalages, expose au regard de tout le bambin, guignols et tambours, soldats et ménages. Soufflant dans ses doigts que le froid rougit, une gosse est là, pâlote et chétive, qui sur le trottoir admire pensive les grandes poupées, leurs jolis habits. Devant tous ces trésors qui ne sont pas pour elle, la gosse dit tout bas, sous le vent qui la gèle: pourquoi donc, bonhomme Noël, ne viens-tu pas dans ma cheminée, m'apporter quand tu viens du ciel de grandes poupées? Moi jamais je n'eus de joujou, car on est malheureux chez nous. Ce soir, donne-moi, je te prie, la poupée rose, si jolie. Sur Paris tout blanc, le petit jour luit, des cafés déserts, les lustres s'éteignent, les fêtards s'en vont, des boîtes de nuit, le roi réveillon a fini son règne. Mais la gosse aux fleurs est venue tomber sous l'abri douteux d'une porte cochère. De larmes glacées mouillent ses paupières, que le grand sommeil va bientôt fermer. Elle se croit déjà au paradis des anges et dit ses derniers mots dans un sourire étrange: je m'en vais, bonhomme Noël, d'un manteau blanc demander aux anges du ciel de grandes poupées. Et demain, quand je serai là-haut, prenant les joujoux les plus beaux, je les enverrai sur la terre pour mes petites sœurs de misère.
Vous avez déjà passé la prière de la Charlotte par Marie Dubas, c'est un jour de Noël. Là, c'est une autre chanson réaliste et même un peu pathétique, évidemment, puisque c'était Bert Silva dans Bonhomme de neige en 1930. Et je vous ai promis ce matin de belles archives, notamment parce que je vais bientôt recevoir Claude Lelouch qui nous parlera à l'occasion de la sortie de son nouveau film, de sa passion qu'on connaît pour la musique. Or, j'avais eu la joie de recevoir déjà deux de ses grands complices musicaux, Pierre Barou et Francis Lay, compositeurs de la plupart de ses musiques de films. J'avais été le rencontrer dans son appartement du 16e arrondissement. C'était en juin 2016 et il nous a raconté ses débuts de musicien. Bonjour Francis Lay.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. J'ai choisi pour commencer cet extrait de Les uns et les autres parce que je me dis au fond que c'est vraiment, peut-être plus encore que tout ce que vous avez fait, un film musical, mais un film sur la musique d'une certaine façon.
Oui, c'est un film sur la musique et d'autant plus qu'avec ce film, j'ai eu l'occasion de faire la moitié de la musique pour tout ce qui concerne l'Europe.
Oui.
Et le grand Michel Legrand a fait toute la partie américaine.
Voilà.
Donc c'était la première fois où on se retrouvait pour une même musique et ça a été un vrai régal. Alors moi j'avais une telle admiration pour Michel Legrand parce que j'ai
les films musicaux notamment les films avec Demy.
Ouais. Surtout les Parapluies de Cherbourg, qui pour moi est un chef-d'œuvre total. Quand Lelouch m'a dit tu vas faire toute la partie européenne et Michel va faire toute la partie américaine, j'étais aux anges. Et voilà. Et
mais vous connaissiez quand même un petit peu.
On se connaissait à peine,
ouais. Hein, ouais.
Mais on n'avait jamais eu l'occasion de se côtoyer vraiment et de travailler surtout ensemble.
Et d'ailleurs, je crois que vous avez demandé finalement à Michel Legrand aussi de s'associer à vous pour l'orchestration d'une partie de vos musiques.
Hein. Je cherche des thèmes. Quand le thème est choisi, après je cherche des orchestrations avec mes machines et j'orchestre un tout petit peu ce que je donne ensuite à un arrangeur qui lui remet tout en ordre et utilise les véritables orchestres.
Ceux
que je souhaite à tout le monde, parce que c'est tellement beau, un grand orchestre.
C'est vrai, mais c'est très beau aussi, je le précise aux auditeurs chez vous, Francis Lay, où nous sommes aujourd'hui, de voir toutes ces machines avec lesquelles vous recréez quand même une sorte d'orchestre pour les maquettes. On en parlera peut-être, je crois que c'est votre façon de travailler. Je reste encore un peu à ce film Les uns et les autres, donc je dis film qui avait pour fil conducteur la musique. Est-ce que ça veut dire que, comme ça a été je crois souvent le cas, vous l'avez presque construit main dans la main avec Claude Lelouch, ce film.
L'originalité de travailler avec Lelouch,
ouais.
C'est qu'il veut la musique définitive enregistrée avant le tournage. Et ensuite, lui se sert de la musique pour le tournage. Et ce qui est fabuleux, c'est que les acteurs, inconsciemment, ils sont portés par la rythmique, par le rythme de la musique. Et vraiment, il y a un conditionnement qui se fait instantané. Il n'y a qu'à voir, par exemple, dans une séquence avec Trintignant et Anouk Aimée dans Un homme et une femme, où ils marchent en musique carrément et on ne se rend pas compte, mais c'est parce qu'il y avait la musique qui était derrière.
Voilà. En ce sens-là, donc, on peut dire que non seulement Les uns et les autres, mais presque tous vos films avec Lelouch sont d'une certaine façon des films musicaux.
Ils sont musicaux dans la mesure où, effectivement, il se sert de la musique pour le tournage. Mais ensuite, c'est un des rares à aimer autant la musique et à considérer la musique comme un véritable acteur. C'est-à-dire que là, la musique, elle prend toute sa place. Elle est toujours en contrepoint avec l'image. Il ne met jamais une musique qui souligne un effet ou des choses comme ça. Non, pour lui, la musique, elle doit apporter quelque chose en plus.
Il est vrai qu'inversement, on connaît beaucoup de cinéastes qui arrivent quasiment à la fin du tournage sans même savoir encore qui va écrire la musique.
Oui, non. Puis c'est redoutable parce qu'on vous laisse 15 jours pour faire une musique. Donc, des fois, c'est un tout petit peu... des fois, c'est réussi, des fois, c'est à côté. Hein.
Francis Lay, en tout cas, on le sait, évidemment, vous êtes compositeur de cinéma. Vous êtes aussi compositeur de chansons. On va en parler aujourd'hui. D'ailleurs, quelquefois, ce sont des chansons au cinéma. Est-ce que c'est le même métier pour vous?
Non, mais ça a contribué à me donner cette chance de pouvoir faire la musique de film, parce que dans Un homme et une femme, ça s'est passé d'une façon tout à fait particulière, parce que Lelouch voulait justement des chansons.
Des chansons, absolument.
Et que Barrault m'a présenté à Lelouch en disant, voilà, je travaille avec un jeune accordéoniste niçois, et on fait des chansons ensemble, et je vais t'en faire écouter une, et c'était « L'amour est bien plus fort que nous ». Et Lelouch a dit, mais cette chanson, je la veux pour mon prochain film. Et tout est parti de là, en fin de compte.
Mais vous avez quand même continué à écrire des chansons, même si vous êtes devenu peut-être plus compositeur de cinéma.
J'ai continué, mais en fait un tout petit peu moins, parce que ça prend beaucoup de temps, la musique de film. Surtout moi qui suis du midi, j'aime bien m'étaler, avoir le temps nécessaire pour penser et puis essayer de donner le maximum de ce que je peux faire.
Alors, on va revenir avec vous, Francis Lay, à quelques-uns de ses souvenirs. Je note encore une petite chose en préambule. Vous savez, je reçois beaucoup d'invités, parfois moins illustres que vous, qui ont tous écrit un ou deux ou trois livres de souvenirs, des mémoires, des anecdotes, etc. Vous êtes un homme relativement discret de ce point de vue-là. Hein. Vous n'avez pas raconté 10 fois votre vie, vos aventures avec Lelouch, avec le monde du cinéma, non? On attend toujours ce livre?
Non, je pense qu'il sera écrit quand je serai plus là, probablement.
Ah bon.
Bon, moi, c'est pas une hantise, mais j'ai l'impression que quand on écrit un livre et qu'on raconte toute sa vie, j'ai l'impression qu'après, il n'y a plus rien, c'est la fin. Ça, par contre, c'est redoutable. Alors, j'essaie de reporter à bien plus sûr. Loin et de vivre encore avec le futur
qui peut arriver. C'est pour ça que nous, on fait juste un petit point sur le parcours, qui sera encore bien long, je l'espère, et on va commencer en remontant dans vos jeunes années, avec une voix que j'imagine vous allez tout de suite reconnaître.
Pour tromper l'ennui d'un dimanche, je suis revenue faire un tour au petit guinche, là-bas sous les branches, comme au temps des premières amours. J'en avais perdu l'habitude, et qui sait si j'y reviendrai. Mais les soirs de solitude, bien souvent j'y penserai. Quand j'allais courir le Guilledou à Robinson, il y avait des soupirs un peu partout dans les buissons. Les années font la chaîne et l'on ira sans nous courir la prétentaine et le Guilledou. Je connais la fin de l'histoire, ce sera la même pour toi, valse lente de la mémoire, que l'on danse chacun pour soi, et que l'on soit devenu riche, ne nous consolera de rien. La fortune, je m'en fiche, nous nous en passions si bien. En allant courir le Guilledou à Robinson, où nos souvenirs flottent partout dans les buissons, réservez la prochaine et dansez-la sans nous. Adieu la prétentaine et le Guilledou.
Le Guilledou. Claude Goati dans une chanson de Bernard Dimet. Francis Lay, évidemment, là, ce sont vos jeunes années. C'est même quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous, Claude Goati, qu'on a un peu oublié aujourd'hui.
Elle a compté énormément parce que si je suis monté, comme on dit, à
monté
Paris.
Monté à Paris de Nice, hein, faut
de
le rappeler.
Nice, c'est grâce à Goati. Parce ouais. qu'elle faisait des cabarets, elle chantait dans les cabarets. Moi, j'étais musicien d'orchestre. Hein. À Nice, toute la côte, j'étais musicien d'orchestre dans un groupe.
Comme accordéoniste.
Comme accordéoniste, bassiste et percussionniste.
Comment c'était venu d'ailleurs? Vos parents vous avaient poussé dans cette voie? C'était...
Pas du tout.
Pas du tout.
Non. J'avais un cousin virtuose, qui est un tout petit peu l'équivalent de notre Galliano actuel, qui faisait du jazz à l'accordéon, qui m'avait impressionné. Ouais. Et je voulais jouer comme lui. Donc j'ai commencé l'accordéon avec ce cousin virtuose
dans les balles de la Côte d'Azur,
sur les balles. Je le remplaçais dans les balles où il pouvait pas aller, Et dans un cabaret à Marseille, il y a des chanteurs et des chanteuses qui passaient. Et un soir, il y a une jeune chanteuse qui me dit « Est-ce que vous voudriez m'accompagner à l'accordéon ?» Je lui dis « Mais que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous chantez comme chanson ?» Elle me dit « Je chante des chansons de Gréco, je chante des chansons de Léo Ferré et tout ça. » Je lui dis « Mais j'adore !» J'adore, je vais essayer, mais c'est avec plaisir. Donc, j'ai accompagné pour la première fois cette jeune chanteuse, et comme j'improvisais beaucoup, elle n'avait jamais entendu ça encore auparavant, elle m'a dit, mais écoute, si j'ai un nom un jour à Paris, c'est toi que je voudrais comme accompagnateur.
Ah, ça s'est fait comme ça.
Et 3 ans après, ouais. Ce qui est fabuleux, j'ai reçu un télégramme, Goati m'a dit, voilà, ça marche très très fort pour moi à Paris. J'ai des chansons qui marchent. J'ai Mimi Fleur Bleue. J'ai des chansons qui, le Barjolaine et tout ça qui marchent. Je vais faire des tournées. Est-ce que ça t'amuserait de venir comme accompagnateur à Paris? Et j'ai pris ce risque-là. J'ai dit bon, allez, j'abandonne tout. J'ai demandé à mon chef d'orchestre. Il m'a dit voilà ce qu'on me propose. Et la chef d'orchestre, puisque c'était Irène Vincent qui était à l'époque chef d'orchestre, elle m'a dit, mais vas-y, c'est une chance merveilleuse, tu vas découvrir notre univers. Et
vous êtes arrivé en quelle année à Paris?
Qu'est-ce que je vais dire, 50? Je ne sais pas.
Dans les années 50, en tout
cas. Dans les années 50, parce que...
Donc, dans un Paris et sur une butte Montmartre qui devait avoir encore un peu le parfum de la bohème.
Complètement.
Ouais.
Complètement. On se retrouvait chez Attilio, la taverne d'Attilio.
Attilio, c'était Place du Tertre?
Place du Tertre. On se retrouvait tous les soirs, parce qu'il y avait tous les cabarets qui entouraient cette place, et où il y avait chez ma cousine. Et chez ma cousine, il y avait absolument tous les chanteurs et les chanteuses qui passaient. Patachou, Hugo Frey, il y avait Mouloudji, pour qui, avec Dimé, on avait écrit pratiquement tout son tour de chant. Et, comme quoi... Quand la vie, elle veut tourner, elle tourne dans le bon sens, c'est que Piaf voulait que Mouloudji fasse sa première partie de l'Olympia. Et un soir, elle est venue sur la butte Montmartre pour écouter le tour de chant de Mouloudji. Et à la fin du tour de chant, elle a demandé à toute l'équipe de Mouloudji, c'est-à-dire Mouloudji, Bernard Dibé, moi-même à l'accordéon, je ne sais plus, on était 5 ou 6, de prendre un verre chez Piaf. Et elle a dit « Amenez votre accordéon parce qu'on va peut-être faire de la musique ». J'ai débarqué chez Piaf et on a passé toute la nuit à faire de la musique. Et c'est là où j'ai joué le fameux bestiaire de Paris. C'était un bestiaire qu'avait écrit Bernard Dimé. Ce sont des quatrains. Et Piaf m'a dit « Écoutez, j'aime bien votre façon de jouer. Est-ce que vous voudriez être mon deuxième accordéoniste et m'écrire des chansons ?»
Alors, on va revenir tout de suite à ces chansons, évidemment, pour Édith Piaf, ça c'est un moment très important, mais vous avez cité déjà au moins 2 fois ou 3 fois le nom de ce grand poète qui était Bernard Dimé. Vous l'aviez rencontré comment, lui?
Pareil. Là-haut, c'est Attilio qui me l'avait présenté, il me dit « Oh, je te présente quelqu'un qui écrit des textes fabuleux ». Pour moi, c'était le Lucky Luke de l'écriture.
Le Lucky Luke.
Ah, parce qu'il
plus vite que son ombre.
À une vitesse. Il écrivait un quatrain, il voulait que je mette la musique tout de suite. Alors, on faisait des musiques qui ne tenaient pas la route, mais on a fait peut-être 200 chansons ensemble.
Et c'était une vraie amitié, c'était un personnage aussi.
Ah, mais oui, non, mais attendez, c'était plus que ça. Il m'éblouissait parce que cette facilité, et puis cette beauté d'écriture, parce que quand même, il écrivait tellement bien. C'était pratiquement toujours des grands poèmes. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des auteurs comme Barou, bien sûr, alors, qui lui...
Barou, on y arrive, mais alors on revient un instant donc à cette soirée chez Piaf, Bernard Dimé, toute la bande à Mouloudji, et puis donc Piaf, finalement, vous devenez un de ses musiciens, un de ses derniers compositeurs et accompagnateurs.
Oui. Ouais, j'ai écrit quelques chansons avec elle.
Ah, vous avez écrit des chansons, vous avez joué sur scène également à l'accordéon auprès d'elle.
Ouais, j'ai joué auprès d'elle et puis on était les deux accordéonistes. Parce qu'il y avait Marc Bonnel qui a été son premier accordéoniste et qui est quand même resté jusqu'à la fin. On était très amis, il n'y avait aucune jalousie ensemble. Quand il y avait des improvisations, je les faisais, mais quand il y avait les parties classiques de l'accordéon, c'est Marc Bonnel qui les faisait. Donc il y avait, c'était une bonne entente. Et puis le dernier concert quand même qu'on a fait à l'Olympia avec le grand orchestre de Jean Lessia, c'était quand même
quelque chose d'extraordinaire.
Un grand moment. Pour moi, ça a été un moment énorme.
Un mot peut-être de la chanson qu'on va écouter tout de suite, Emporte-moi.
Ah oh, oui, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Parce que celle-là, elle me rappelle bien sûr Jacques Plante. Et voilà, bon, quand on a la chance de pouvoir faire chanter une de ses chansons par la plus grande chanteuse au monde, croyez-moi, c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. Parce que j'en demandais pas plus.
À Paris, la nuit, Pigalle s'illumine. Les clients des bars ont des mauvaises mines. Sous les lampes crues, les sourires se fardent. Dans un coin perdu, deux amants se regardent. Vite sur le seuil des bars, des lèvres vous invitent. Sous les lampes crues, des souvenirs grimacent. Dans un coin perdu, nos deux amants s'enlacent. C'est l'heure où l'on arrose. Au dernier bistrot, le patron fait la gueule. Une femme au bar chantonne toute seule.
Emporte-moi, une de vos chansons, Francis Lai, pour Édith Piaf. On pourrait citer aussi C'était pas moi, Les gens, Un sale petit brouillard.
Ce sale petit brouillard,
ouais,
qui a été la première.
Brouillard.
La première chanson. Vous vous rendez compte, quel bonheur.
L'homme de Berlin.
Alors, L'homme de Berlin, ça a été la dernière chanson. Malheureusement, elle n'a pas pu l'enregistrer en studio. Et on n'a fait qu'une maquette. Et donc, ce qu'on entend, c'est une vraie maquette.
Ah oui.
On était avec quatre musiciens. Elle a chanté comme ça, entre nous. Et c'est resté le dernier document chanté de Piaf.
D'avoir été un musicien proche d'Édith Piaf, on peut dire que ça vous avait lancé déjà une première fois avant le cinéma. Francis Lai, ça a changé le cours de votre carrière ou pas vraiment?
Non, pas du tout.
Pas du
moi,
tout.
Pour moi, c'était... Je ne m'attendais pas à ça au départ. Quand j'ai commencé à jouer de l'accordéon, peut-être mon plus grand désir et mon plus grand rêve, c'était de devenir chef d'orchestre et d'avoir un orchestre.
À propos d'orchestre, vous avez aussi, je crois, dans ses premières années, travaillé avec Michel Magne.
Ah ben oui, mais là, ça, c'est... Lui aussi, il m'avait donné toutes ses chances avec l'accordéon, parce que j'avais la chance à cette époque-là, justement, qu'il n'y avait pratiquement personne qui jouait de l'accordéon un peu jazzy, comme je le faisais. Et donc, ça avait un peu épaté Magne, qui me disait « Oh non, non, attends, je vais te prendre dans l'orchestre et tu vas faire des solos d'accordéon. » Et il y a eu un moment magnifique, c'est que quand il est passé à l'Olympia, j'avais mon morceau à jouer en solo avec l'orchestre déjà derrière, mais qui m'a amené sur scène, d'après vous? Eh bien, c'était Michel Colombier. Oh, Michel Colombier,
grand
musicien, m'a amené sur scène dans une brouette avec l'accordéon. Parce que c'est... Man était fou, hein.
Ah oui?
Attention, il était fou furieux. Hein. Il faisait des choses à laquelle personne n'aurait jamais pensé. Il m'a fait jouer suspendu à 5 mètres du sol, suspendu, jouer l'accordéon, faire l'obade.
Ah oui, c'était seulement des concerts, alors c'était les folies bergères.
C'était la folie furieuse. Et moi, j'adorais ça. Pas de tout ce qui était un peu farfelus, moi ça me plaisait parce que à partir du moment où ça devient trop sérieux, trop rigoureux et tout ça, on prend plus tellement de plaisir. Là, le fait d'être suspendu à 5 mètres du sol et jouer une mélodie à Françoise Hardy qui était à la fenêtre, Roméo et Juliette, c'était superbe.
Bon, ce qui est agréable avec vous, Francis Lay, c'est que vous évoquez tous ceux qui vous ont fait avancer, que vous avez aimé avec un enthousiasme, une générosité, une amitié toujours intacte, on sent. Hein, voilà, vous aimez bien parler des autres.
Ah, parce que c'est la réalité.
Ouais.
C'est la réalité. Moi, j'ai passé des moments tellement exceptionnels que je sais que pas beaucoup de personnes ont eu la chance d'avoir. C'est que j'en suis tellement heureux. J'essaye d'en faire profiter les autres aussi.
Alors, rencontre évidemment importante ensuite également. On l'a d'ailleurs reçu ici, voici quelques mois, dans cette même émission, et on avait bien sûr aussi parlé de vous. C'était Pierre Barou, donc, que vous rencontrez au moment où vous écrivez des chansons, et simplement parce que vous êtes compositeur de chansons, sans penser que ça va déboucher évidemment sur le cinéma.
Alors là, ça va être aussi une rencontre fabuleuse, parce que comment j'ai rencontré Barou? Il était venu à l'Alhambra, Maurice Chevalier, écouter De Vos, Raymond De Vos. Donc, en première partie, il y avait bien sûr l'orchestre de Michel Magne, où je jouais. Et donc, un petit gag encore, c'est qu'à un certain moment, je jouais des timbales. J'étais timbalier dans l'orchestre, et il y avait une timbale vide, et dans la timbale, il y avait des sandwichs. Et alors, à un certain moment, bien sûr... que je m'arrêtais de jouer des timbales, je m'installais avec une bouteille et je... Bon, voilà. Et bon, ça a fait rire Barou, et à la fin du spectacle, il est venu me voir, il me dit « Vous savez, je ne vous connais pas, mais il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Mimi Fleur Bleue et qui est chantée par Claude Goati que vous accompagnez. » Je lui dis « C'est ma chanson préférée. » Et alors il me dit « Eh bien écoutez, ce qu'on peut faire, c'est essayer peut-être de faire des chansons ensemble. » Et là, est parti
la bicyclette.
L'amitié, tout de suite, ça a été le départ. Parce qu'on avait plein de points communs. On adorait les bandes dessinées. Dès qu'il y avait un Lucky Luke, ou dès qu'il y avait un Astérix, ou dès qu'il y avait une bande dessinée qui sortait, c'était le premier qu'il avait à aller vers l'autre. Puis on passait des moments, on passait plus de moments à rire avec les bandes dessinées qu'à écrire des chansons. Parce qu'un jour, on a fait le calcul, on a dit... Il dit, tu te rends compte, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble, combien de chansons on a écrites ensemble? Moi, j'ai dit, ça doit compter. Et on a compté. En tout et pour tout, je crois, en 3 ans ou 4 ans, on avait écrit peut-être 20 chansons en tout.
Ah oui, vous étiez
ce qui
pas
était
des,
ridicule.
Des grands travailleurs. Hein.
C'était ridicule.
Alors, vous avez dû être content quand même quand Yves Montand a enregistré à bicyclette.
Ah ben oui, non, mais ça aussi, c'est un, ouais, c'est un cadeau. Ça, c'est un grand cadeau.
Ouais.
Pierre a joué au boule, je crois, avec Montand à Vence, à Saint-Paul-de-Vence. Et puis je crois qu'un jour, il lui a fait écouter c'était une cassette.
Ouais.
Et Montand a flashé dessus et puis il a dit « Ah, moi, j'aimerais bien l'enregistrer ». Et puis voilà, c'est parti.
Voilà.
C'est parti. Alors qu'au départ, cette chanson avait été écrite pour une publicité,
ah bon,
je crois. Oui, oui, c'était un truc...
Pour les vélos?
C'est encore une...
Pour une marque de vélo.
Je ne sais pas, mais c'est encore une aventure.
On lui demandera.
Oui, il faut lui demander. Ouais.
En tout cas, vous vous rappelez le jour, j'imagine, où Pierre Barou vous a présenté Claude Lelouch?
Ah ben oui. Lelouch tournait un film qui s'appelait Une fille et des fusils.
Ouais.
Et puis... Barou me dit, écoute, viens un jour au tournage, tu vas voir, je suis en train de tourner avec un jeune metteur en scène qui est complètement allumé, et je débarque, il me dit, amène ton accordéon à tout hasard. Ouais. Il tournait, il me dit, on tourne au marché aux puces, viens nous voir. Et j'arrive au marché aux puces avec mon accordéon sur le dos et tout ça, et puis je cherchais, moi je m'attendais, vous savez, cinéma, je m'attendais à des projos partout, des trucs... Je ne voyais pas grand-chose, pas de metteur en scène, pas de caméra, rien du tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis tout d'un coup, sous une table, il y a une espèce de monsieur qui sort avec la caméra sur l'épaule et il s'arrête et il dit « C'est génial !» C'est le premier mot que j'ai entendu de Lelouch. « C'est génial !» Et Barou me dit, ben voilà, tu vois le metteur en scène avec qui je tourne, c'est monsieur. Et il m'a dit, ben écoutez, venez chez moi et on va faire un peu de musique et tout ça. Et voilà, puis ça a fonctionné tout de suite.
Ça
fait cette année, en fait, notre cinquantenaire.
Love Story, un autre immense succès de ce musicien qui était Francis Lai, que j'avais eu la joie d'interviewer en juin 2016. Il nous a quittés en 2018, mais c'est vraiment pour moi un souvenir très radieux que cette rencontre, tout comme celle avec un autre complice musical de Claude Lelouch, Pierre Barou, que j'avais interviewé sur ses débuts au mois de novembre 2015.
Moi, si j'étais de bois, je serais de ce bois qui fait les goélettes. Et je giflerais l'eau sans penser au complot des grands fonds qui me guettent. Moi, si j'étais de fer, je croiserais le fer, je serais une dague. De celles qui se taillent dans le cœur des batailles, des légendes un peu vagues. Vivre, 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 vivre. Moi si j'étais le vent, je traînerais souvent autour de la planète. Avec ou sans pitié, je n'aurais d'amitié que pour les vraies tempêtes. Moi si j'étais la mer, j'aurais de ces colères à faire peur aux orages. Puis je m'enfoncerai au cœur de mes secrets, au cœur de mes mirages. Vivre, 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 vivre. Si j'étais un volcan, je ferais un boucan tel que des antipodes. Quelques siècles après, encore on parlerait de terreur et d'exode. Moi si j'étais le feu, j'aurais pour pile feu de profondes caresses. Et pour qui ne peut pas, j'offrirais un trépas de lumière et d'ivresse. Vivre, 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 vivre. Je ne suis qu'un garçon, et malgré mes chansons, j'ai tant de manque à vivre. Que je cherche toujours une forme d'amour qui vienne et m'en délivre. Oui, je suis un garçon, puisque j'ai mes chansons, je me servirai d'elles. Pour mélanger ma voix à tout ce que je crois être ce qu'on appelle. Vivre, 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 vivre.
Barou.
Bonjour Benoît.
Vous vous rappelez l'enregistrement de cette chanson?
Oui, je m'en souviens très très bien.
Il y a un pianiste formidable avec vous.
Non, mais c'est trop drôle. C'était mon tout premier disque. Ouais. Lucien Maurice, Europe numéro 1. Et Lucien Maurice me dit, oui, j'ai trouvé un super arrangeur. Et moi, j'aime pas les choses trop clean. J'aime bien improviser partout, en studio aussi. Et je dis, mais j'aimerais bien faire ça avec Maurice Vander. Alors, Maurice Vander était déjà connu dans le monde du jazz, mais ouais. Lucien Maurice n'en avait pas entendu parler. Il se renseigne, il dit, quoi, un pianiste de jazz, pas question. Alors, j'ai dit, ok, on laisse tomber. Ce qui fait que mon premier contrat commençait par une grève. Je suis reparti en promenade. Et au bout de quelques mois, Lucien m'a dit, bon, tu m'emmerdes, tu fais ça avec qui tu veux. Donc, voilà, j'ai fait ça avec Maurice Vander.
C'est un bel enregistrement. Et oui, c'est une belle chanson.
Oui, que par la suite, j'ai présenté d'ailleurs à Nougaro et ils ne se sont pas quittés pendant 30 ans.
Une chanson qui est un petit peu d'ailleurs, mais j'ai envie de dire comme toutes vos chansons, qui est un petit peu autoportrait, qui est un... vous racontez beaucoup. Je vois dans votre livre Les rivières souterraines, presque toutes vos chansons ont une histoire personnelle.
Oui, il y en a beaucoup, oui, mais j'aime bien poser le regard sur ce qui m'entoure aussi.
Oui, sur le monde qui vous entoure, oui. Mais c'est toujours un peu vécu. Enfin, je veux dire, c'est pas juste comme ça, trouver une idée abstraite. Ça se rattache toujours un peu à votre vie.
Oui, à mes rencontres.
À vos rencontres.
Oui, non, parce que là, puisque vous avez le livre dans les mains, je pense que ça n'a pas du tout le côté formel de la biographie.
Ah non, ça n'a pas du tout, alors.
Je pose mon regard plus sur ce qui m'entoure que sur moi, quoi, finalement.
C'est une continuelle digression où vous vous racontez.
Oui, mais je dis, je pose plus mon regard sur ce qui m'entoure que sur moi, hein, quand même. Mais là, je l'ai pas prévu. C'est-à-dire, j'étais à Montréal, à l'aéroport, l'avion avait 3 heures de retard. Ouais. Bon, pour passer le temps, j'ai commencé à griffonner. Puis ça m'a pris plus de 10 ans. Mais ça, c'est un truc qui séduit certaines personnes et qui en perturbe beaucoup d'autres, le fait qu'il n'y a aucune chronologie.
Voilà.
Mais je ne l'ai pas prémédité du tout.
Mais je veux dire, ce n'est pas non plus du tout typiquement le livre d'un grand artiste du showbiz qui raconte sa carrière, parce que vous nous parlez autant de personnages secondaires, d'amitiés, de personnages inconnus qui vous ont marqué plus que des grands moments professionnels.
Le fait qu'il n'y ait aucune chronologie, je vous dis, je ne l'ai pas prémédité. Vous voyez, si un jour, comme je le souhaite, on dîne ensemble, on va faire des sauts dans le temps en permanence en
évidemment,
fonction d'un souvenir, d'un projet.
C'est comme ça dans la vie.
Et bon, il est conçu comme ça.
En tout cas, on l'a compris, Pierre Barou... Vous n'êtes pas vraiment un homme de cases, de classement. Vous avez fait 1000 choses dans votre vie. Au bout du compte, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Le chanteur, l'auteur-compositeur, le cinéaste, l'acteur? Il y a une petite hiérarchie dans tout ça quand même?
Non, mais si vous voulez, depuis mon adolescence, on est tous en proie à certaines obsessions.
Ouais.
Pour moi, ça a toujours été de plus ou moins témoigner du monde qui m'entoure et de faire circuler quelques émotions avec des images et des mots. Avec une ambition aussi, c'est que lorsque les mots sont prononcés, ils évoquent des images. C'est ouais. Pour ça que beaucoup de mes chansons sont construites selon un processus totalement cinématographique. Il y a un découpage très cinématographique. Et pour moi, je me répète toujours avec ça, il n'y a que des hasards objectifs. C'est-à-dire qu'un film, un jour, cinéma, j'avais 14-15 ans, qui m'a amené la chanson, je l'évoque dans le livre.
C'est Marcel Carné.
Oui, c'est...
Les visiteurs du soir.
Oui, 3 mots de Jacques Prévert m'ont fait basculer ouais. Complètement, quoi.
Alors on va revenir sur ces souvenirs, avec une liberté chronologique, Pierre Barou, en commençant peut-être forcément quand même par évoquer vos jeunes années, celles où vous faisiez de la bicyclette.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Ah, je suis très très intimidé, Pierre Barou, parce que pour moi cette chanson, elle appartient à la légende de la chanson française.
Oui, mais je me répète toujours, je l'évoquais avec vous.
Vous en êtes l'auteur.
Vous,
hein,
c'est pas un tube, mais elle est rentrée dans la mémoire populaire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne connais pas d'autre exemple, vous me direz-vous, de chanson qui soit rentrée dans la mémoire populaire et qui soit impossible de chanter à cappella.
De chanter à cappella, parce que la musique, harmoniquement, est assez
subtile.
Oui,
vous prenez le temps des cerises, les feuilles mortes et tout ça, mais celle-là, non. La
musique
première
musique
partie...
de Francis Lai, on précise,
oui, oui.
Comme beaucoup de vos chansons.
Oui, oui, musique de Francis Lai, oui.
Enregistrée par Montand en 68, mais que vous aviez en fait écrite bien avant.
Ah oui, oui, c'est à l'époque, fou de jazz, je traînais à Saint-Germain-des-Prés. Pour ce qui me parvient de vous, je regrette que vous n'ayez pas eu l'opportunité de connaître le Saint-Germain-des-Prés de la fin des années 50.
Et moi donc.
Tout se passait dans un petit ruisseau, la rue Saint-Benoît. Ouais. Donc j'allais là écouter du jazz. Et puis bon, je rencontrais des gens. Puis un jour, il y a un mec qui travaillait dans une agence de pub et qui me dit « Oui, tu vas faire un texte, mais ce n'était pas une chanson. C'était pour un dépliant, pour le vélo, quoi, je ne sais pas quoi. » Alors je me suis drapé dans ma dignité. J'ai dit « Comment écrire pour la pub ? Jamais. » Et c'est une période où je passais une partie de la nuit à Saint-Germain-des-Prés et je rejoignais Francis Lai, place du Tertre. C'était vraiment un vrai rituel. Et l'autre, il m'avait mis un poison en tête. Et j'ai commencé à écrire ce texte-là. Je l'ai confié à Francis. Bon, c'était un truc de plus en notre musette, quoi. Ouais. Et le temps passe. Un homme et une femme. Je me retrouve marié à Anouk Aimé, Festival de Cannes. Cannes, ça faisait un peu trop de bruit pour nous. Donc, on s'est installé à la Colombe d'Or. Le repère d'Yves Montand. Il faut vous dire que Yves Montand, moi, quand j'ai commencé vraiment à me passionner pour la chanson à 15-16 ans, mes parents m'avaient amené au Théâtre de l'Étoile et j'avais été tellement ému que je voulais y retourner, mais on n'avait pas assez d'argent.
Alors... C'était Montand déjà ?
Oui, oui.
Ah oui.
Il était passé au Théâtre de l'Étoile. Ouais. Et on n'avait pas assez d'argent pour que j'y retourne. Et il m'arrivait d'aller porter mon oreille sur la porte en fer de la rue Troyon, où il y avait l'entrée des artistes,
ah ouais,
pour choper quelques bribes comme ça. Et là, on se retrouvait. On ne parlait jamais chanson. Et comme j'adore chanter au dessert, un jour, il y avait Simone Signoret, lui, on déjeunait ensemble. Et je lui chantonne ça. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le dernier couplet, c'était pas celui-là. C'est l'histoire d'un mec qui revenait 30 ans plus tard avec femme et enfant en bagnole sur les traces du fantôme de Paulette. Et Montand, qui n'a jamais eu la prétention d'écrire, mais qui était un grand passeur, du bout des lèvres, me dit « Écoute, pour moi, ce serait mieux si c'était comme un petit film qui commence ce matin, qui se termine le soir. » Et c'est provoqué par lui que j'écris ce dernier couplet. Mais je n'étais pas en studio.
Voilà.
Et je crois que c'est notre cas à tous les deux, pour qui aime le mot. J'étais pas là, il a fait une erreur infime et l'image se rétrécit complètement.
Alors la phrase d'origine et la phrase qu'il a enregistrée, redites-nous.
La phrase d'origine, c'est « Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. » Vous voyez l'image,
ouais,
c'est le mec qui se laisse distancer par les potes pour s'offrir une petite parenthèse. Et Montand
a fait de n'être pas un seul instant.
Voilà. Voilà. Et l'image se rétrécit complètement.
Effectivement.
C'est fascinant.
Vous avez évoqué à l'instant vos parents qui vous emmenaient au théâtre de l'Étoile. Ça c'était après la guerre. Revenons un peu juste avant la guerre. Donc vos parents étaient installés à Levallois.
Oui.
Arrivé d'une famille d'Istanbul, du
oui.
Bosphore,
oui.
Et donc exerçant le métier de commerçant, de marchand de tissus, je crois.
Oui, 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 mais une famille
assez extraordinaire quand même.
Merveilleuse, hein. Oui. Milieu modeste, quatre frères généreux, merveilleux quoi.
Est-ce que vous avez des souvenirs d'avant-guerre, de choses qu'on entendait sur le poste de Charles Trenet ou d'autres, non ?
Oui, oui, non, mais il y a eu cette découverte de ce film, Les Visiteurs du Soir, où j'avais triché un peu, la caissière était partie, je suis rentré, et ma vie a basculé sur trois mots de Jacques Prévert, vraiment, des monts et merveilles, des vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, parce que, si vous voulez, je suis né en 34, j'avais 6 ans au début de la guerre. Pour m'éviter des impondérables, je me suis retrouvé dans le terroir profond.
En Vendée.
Et j'ai passé les années d'ailleurs à poser des collets, des pièges à perdrix. Je suis revenu, je parlais patois, j'étais le cancre total. Et il y a eu, heureusement, ces trois mots de Jacques Prévert. Et à partir de là, je me suis nourri de plein de choses, de Trenet, de Brassens.
Parce qu'il faut dire, Pierre Barou, que... Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui était important dans votre vie, mais il y a aussi le sport qui a été très très important dans ces années-là.
Le sport, très important.
Voilà, vous avez été un champion de volley-ball en particulier.
Oui, oui, j'ai été sélectionné en équipe de France B, de volley-ball.
Et ça vous a aidé d'ailleurs lors d'un voyage très très marquant que vous avez fait au Portugal. Vous étiez encore tout jeune. Vous aviez comme projet de ne plus aller à l'école, d'écrire des chansons et de vous promener jusqu'à l'âge de 30 ans. C'était à peu près votre règle de vie.
Hein. Oui, oui, oui.
Et vous vous êtes retrouvé donc au Portugal, où vous avez refait d'ailleurs du volleyball, on vous a engagé.
Oui, mais c'est grâce à ça que j'ai pu, parce que c'était la dictature à l'époque, c'était Saint-Lazare.
Oui.
Donc c'était pas vraiment marrant, mais grâce au volleyball, je me suis fait des potes.
Voilà.
Et comme ça, ils m'ont présenté quelqu'un, je chantais dans un petit bistrot.
Voilà. Le Sorrento, c'est ça ?
Le Sorrento, oui, voilà. Bravo.
Et c'est là que vous avez rencontré la musique brésilienne, ce qui est très important dans votre histoire et même dans notre histoire musicale.
Non, mais c'est une histoire incroyable, parce qu'à débarquer, Sivu, qui a un personnage extraordinaire, noir albinos, musicien... Mais en plus, encore une fois, dans la rubrique Rivière souterraine, c'était 1959.
Ouais.
Et 1959, c'est l'année où Chegad et Sodage a envahi la planète, le 10 de juin Gilberto.
Ouais.
Incroyable. Et c'est lui qui a été le sésame. Donc, comme dans le petit bistrot où je chantais, c'était un petit resto, il y a des gens qui venaient écouter le petit français et qui m'invitaient à prendre un café.
Sivuca, ce n'était pas vraiment la bossa nova au sens
où on
entend aujourd'hui.
Mais là, j'ai un point de vue totalement jésuitique sur l'histoire de la bossa nova parce qu'on on fait un mélange incroyable et c'est au détriment de la richesse de la chanson brésilienne.
C'est vrai.
Et la bossa nova, pour moi, c'est Juan Gilberto.
Alors, une des chansons de cette période, on va dire avant Un homme et une femme, qu'on va écouter maintenant, peut-être faudrait que vous nous en parliez un petit peu, Décroche-moi la terre.
Ah oui. Très souvent dans mes chansons, il y a une double lecture.
Ouais.
Hein ? Je veux dire que dans la première lecture, c'est une chanson d'amour, mais dans la double lecture, c'est autre chose.
Mais qu'est-ce que t'as, dis-moi, à me regarder comme ça, comme si t'étais folle de moi. Ça m'est arrivé tant de fois d'être amoureux et chaque fois elle me demandait chacune pour elle de décrocher la lune. Décroche-moi la terre puisque d'autres viendront le faire. Sans le prétexte aussi sérieux que le caprice d'un amoureux. Décroche-moi la terre, puisque d'autres viendront le faire. On le sait bien, c'est en sursis, quand ce monde elle vit, elle aussi. Mais qu'est-ce que t'as, dis-moi, à me regarder comme ça. Comme si t'attendais tout de moi. Comment pourrais-je t'expliquer pourquoi la lune s'est cachée la face. On peut imaginer des raisons qui vont tout gâcher. Décroche-moi la terre puisque d'autres viendront le faire. Qu'elle en ait plus pour très longtemps ne peut rien changer à l'instant. Décroche-moi la terre, allons faire un tour d'univers. On a la chance de rêver autant qu'on soit dans les premiers. Thank you.
Pierre Barou, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aimiez pas trop les arrangements faits à l'avance. Mais enfin là, vous avez quand même fait appel à un vrai maître du genre, Jean-Claude Vanier, qui a signé les arrangements de cette chanson.
Oui, oui.
Parfois, ça vous intéresse quand même.
Oui, bien sûr.
Ce qu'on fait comme couleur autour de d'une
mélodie.
Non, bien sûr.
Tout le son de Saraba, finalement, c'est incroyable parce que la samba Saraba...
Qu'on va écouter dans un instant, d'ailleurs.
Je rencontre Lelouch. On fait un film ensemble qui s'appelle « Une fille et des fusils ». Et dans la mouvance, il est en plein transfert passionnel, il me voit comme un acteur, je ne sais pas quoi, il me raconte une histoire. Et je lui présente Jean-Louis Trintignant, qui lui présente Anouk Aimée, et je lui fais de l'intox pendant des semaines sur le talent de mélodiste de Francis Lai.
Faut dire qu'il n'avait pas l'habitude, Lelouch, d'ailleurs, de mettre de chansons dans ses
films.
Non, mais
c'est fascinant. Moi qui suis fasciné par la vertu des impondérables, mais vraiment, si on a pu faire ce film, c'est parce qu'on n'avait pas un rond pour faire le film. S'il y avait eu un producteur, un accordéoniste niçois, une chanson brésilienne et tout ça, jamais on n'aurait pu faire ça. Et historiquement, je n'ai pas une culture immense, mais je pense que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on utilisait la chanson comme ça.
Ouais.
Avant, il y avait des comédies musicales, des gens qui sentaient en situation dans les films, Fréhel dans Pépé le Moko, Jean Gabin dans La Belle Équipe. Jamais ces deux mots d'expression s'étaient tressés comme ça en s'inscrivant dans la fiction. Et si on a pu faire ça, vertu des impondérables, c'est parce qu'on n'avait pas un rond pour faire le film. Mais vraiment.
Quelque chose que vous ne nous avez pas dit, qui est quand même important, c'est ça remonte où votre rencontre avec Francis Lai, avec qui vous avez fait tant de chansons avant même Un homme, une femme?
Ah oui, Francis Lai, c'était une amitié immédiate. Oui, on se retrouvait toutes les nuits au Pichet du Tertre.
Donc là, vous avez commencé à faire des chansons ensemble, puis vous êtes jamais arrêté, quoi?
Non, on n'a jamais arrêté. On habitait à côté, on était aussi boulevard de Clichy.
Et comment est-ce que vous écrivez une chanson avec Francis Lai? Ça part d'où? Ça part du texte? Ça part de la musique? Ça dépend des fois?
Oui, ça dépend des fois. Il n'y a aucune règle. J'adore écrire sur la musique.
Vous l'avez fait parfois? Ah,
oui. Non, je vais vous dire pourquoi. On a tous des pulsions qui nous sont habituelles. Par exemple, Brassens a beaucoup écrit en octosyllabes ou des trucs comme ça. Et si vous voulez, ce qu'il y a de formidable, c'est que si je propose un texte à un musicien, par exemple, il y a une chanson qui est un exemplaire qui s'appelle « L'allégresse », que j'ai écrite avec Richard Galliano, que vous citiez tout à l'heure. J'écris un texte et je donne le texte à un compositeur. Il va faire une musique assez alerte.
Ouais.
Alors que pour moi, je l'évoque dans la chanson, l'allégresse, c'est un sentiment très étrange. Ouais. C'est pas la joie, c'est pas le bonheur. On avait rencard aujourd'hui, j'ai pris mon scooter, j'aurais pu avoir un accident ou je sais pas quoi. Et tout d'un coup, on est pris d'une bouffée d'allégresse qui va s'évaporer aussi mystérieusement qu'elle est arrivée. Donc, si j'avais confié ce texte, il aurait fait une musique allègre. Mais je lui ai demandé une mélodie parce que je m'étais lié d'amitié. Et il a fait une petite valse lente qui exprime absolument l'ambiguïté de ce sentiment de l'allégresse. Et c'est pour ça que j'adore écrire sur la musique aussi.
Oui, c'est ça. On va écouter tout de suite, quand même, Samba Sarava plutôt que Shabadabada.
Oui.
Parce qu'il y a Baden-Powell aussi.
Non, mais Benoît.
Non, mais j'aime beaucoup Shabadabada.
Non, mais encore une fois, il n'y a pas de succès sans malentendu. Le Shabada n'existe pas dans la chanson.
Ah oui.
Comme nos voix, badabada, chante tout bas, badabada, nos cœurs y voient, badabada. Combien de joie, bien des drames. Et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme ont forgé la trame du hasard. Donc on tourne ça en dérision, en disant, ah oui, Pierre Barou, Shabada et tout ça, le Shabada n'existe pas.
Le malentendu incroyable.
Oui, mais c'est...
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, pourtant s'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines. Vagabonde, aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Juan Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez mon salut. Ce soir, je voudrais boire jusqu'à l'ivresse, pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est. Saraba, Peshinging, Noël Rosa, Dolores Durand, Silvio Montero, et tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, Edu Lobo, et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Biji, Oscar, Nicolino, Milton, Saraba. Tout cela qui font qu'il est un mot que plus jamais je ne pourrais prononcer sans frissonner. Un mot qui secoue tout un peuple en le faisant chanter. Les mains levées au ciel, samba. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur.
Pierre Barou dans Un homme et une femme, merveilleuse chanson et entretien là aussi très marquant pour moi avec ce musicien qui nous a quittés en décembre 2016. Vous pouvez en tout cas retrouver l'intégralité de ces deux entretiens avec Francis Lay et Pierre Barou sur le site de France Musique, francemusique.fr.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour ce programme de musique légère qui conclut rituellement notre émission, eh bien j'ai retrouvé pour vous là encore quelques petits cadeaux merveilleux, des archives anciennes avec des voix d'autrefois. Et nous allons commencer par la grande Yvonne Printemps qui parle de sa rencontre avec André Messager, un enregistrement radiophonique de novembre 1948.
Allô ? Allô ? Allô, madame Yvonne Printemps ?
Moi-même.
La radiodiffusion française, madame, a l'intention de dédier la première des quatre émissions qui vous sont consacrées à deux grands musiciens disparus, André Messager et Reynaldo Hahn. Pourriez-vous, vous qui avez eu l'occasion de les approcher, évoquer à leur propos quelques souvenirs ?
Pensez avec quel plaisir. Messager, Reynaldo Hahn, deux grands noms, deux grands succès, deux beaux et grands souvenirs. C'est un musicien, Yvan Caril, qui était venu demander un livret d'opérette. Il avait eu beaucoup de succès en Amérique, des très grands succès. Il le prend, il l'emporte avec lui en Amérique, où il devait se rendre pour une quinzaine de jours. Et, hélas, il meurt sur le bateau. On oublie ce projet, on range ce livret d'opérette dans un tiroir. Et un soir, le merveilleux messager arrive dans la loge et dit simplement « Pourquoi pas moi ?» Pensez la joie, l'émotion, enfin, tout ce qu'on peut ressentir. On lui donne le livret et le lendemain matin, à 10h, il apportait l'air « J'ai deux amants » qui ne comportait qu'un seul couplet car ça ne devait pas être chanté dans le livret initial. On lui a refait un second couplet et tous les matins, pendant un mois et demi, il apportait une chose étonnante, la musique la plus ravissante, la plus distinguée, la plus spirituelle, la plus française. Et il avait 70 ans.
Ah, cette voix merveilleuse de fraîcheur, d'habileté, cette diction extraordinaire d'Yvonne Printemps dans L'amour masqué de Messager et Sacha Guitry. Mais je dois dire que j'aimais beaucoup aussi sa voix parlée auparavant dans cet entretien radiophonique qu'on a entendu. Alors voici un autre document radiophonique qui date des années 40, c'est sous l'occupation. Et Franz Lehár, le grand compositeur de musique viennoise, vient à Paris pour diriger certaines de ses œuvres. C'est quand même un musicien hors pair dont on a plaisir d'entendre ici la voix en français.
La presse se trouve réunie aujourd'hui dans un salon du Grand Hôtel. Je vois devant moi une affiche qui indique que l'illustre compositeur Franz Lehár doit diriger l'orchestre symphonique Gabriel Pierné au théâtre du Châtelet le samedi 22 février Et c'est à l'occasion de ce concert que la presse se trouve réunie. Je suis sûr que Franz Lehár lui-même a quelque chose à vous dire à ce sujet.
Je suis très heureuse de conduire l'excellent orchestre symphonique Gabriel Pierny et j'ai choisi l'œuvre si intéressante des vieux musiciens pour lui réserver le bénéfice de ses concerts.
Puis-je vous demander, mon cher maître, quels sont les morceaux qui figurent au programme?
Je dirige Paganini, Frasquita, Chanson de Monheur, Frédéric et pour la première fois à Paris une nouvelle ouverture de la Veuve Joyeuse que j'ai écrit 35 ans après la création.
Quand Dieu créa le monde, les hommes s'aimaient. Pour tous les oiseaux chantaient, les roses fleurissaient. La paix régnait ici-bas, l'argent n'existait pas.
Tout a changé de l'Éden, l'homme fut chassé.
Le bon temps n'est plus, le paradis a disparu.
L'odeur chante des mots très gentils pour d'autres enfants, c'est le paradis.
Mon amour et ton amour sont nés le même jour. D'un regard très court mais qui vous charme pour toujours.
Mon amour et ton amour se disent tout à tout.
Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien.
Claudine Collard et Claude Devos dans ce ravissant petit extrait du Pays du Sourire de Franz Lehár, version française bien entendu, comme celle d'ailleurs qu'il dirigeait à Paris pendant la guerre. Mais là on remonte un petit peu avant la guerre, on est au début 1939 et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un entretien avec l'irrésistible Pauline Carton, actrice, fantaisiste, merveilleuse dans les rôles de Bonne, mais femme très cultivée qui était aussi la conseillère spéciale, vous savez, de Sacha Guitry. Et elle évoque ici justement ses début dans l'art du théâtre et de la chanson.
Où, comment et de quelle façon vous avez été amené à chanter votre première chanson? Voilà.
Ma première chanson? Oui. Vous savez, monsieur, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de choix dans mes chansons pour la bonne raison que je chante à peine, je chante comme une corde à puits, vous n'ignorez pas ça.
Non,
mais enfin, ma première chanson, c'était dans une pièce de Labiche qui s'appelle Maman Sabouleux. Je n'avais pas tout à fait 6 ans et je chantais en arrivant en scène dans le rôle de la petite fille de Maman Sabouleux. Je chantais quand je fus bien sage toute la semaine, que dans la soupe j'ai promis trop de sel. Maman Sabouleux le dimanche me mène dîner aux pompiers éternels. J'étais tellement petite que je m'accoudais sur le litre de vin rouge que j'apportais en scène comme accessoire.
Oh là là, et les spectateurs étaient contents, ils étaient chauds.
Oh, comment ils étaient chauds? Ils étaient bouillants, ils étaient torrides. Pensez donc, c'était nos parents.
Oh,
mon père, ma mère et puis ceux des autres acteurs, ça se passait dans l'antichambre de chez moi.
Oui. Enfin, ça, écoutez, c'est une chanson d'amateur, ça.
Ah oui, c'est du théâtre, enfin, de famille.
Théâtre de famille. Mais alors, votre première chanson en tant que chanson professionnelle, si j'ose dire.
Ah, comme professionnelle. Eh bien, écoutez, c'était ici, à Marseille. Où
à
j'ai
Marseille.
Débuté il y a 33 ans, dans toutes voilà. Les utilités en cours. C'était au théâtre du gymnase et nous jouions naturellement des comédies, des vaudevilles, mais il y avait toujours une chanson, non pas dans ces pièces qui étaient gaies, mais dans les pièces tristes, dans les drames. À ce moment-là, dans chaque drame, il y avait une petite chanson. Et je me souviens que dans les crochets du Père Martin, je chantais avec mes camarades, je chantais en chœur une chanson incroyable. J'arrivais et le personnage que je jouais s'appelait Pauline. C'était une étaillire. Oui, comme moi. Seulement c'était une étaillire, pas comme moi. Une étaillire de 1840, figurez-vous. Alors j'arrivais en donnant le signe du désordre et de la vie facile. Je disais, eh ben tant pis, j'ai mangé 3 babas. Et après nous chantions une chanson très curieuse. Nous chantions en guise d'oiseaux de passage, profitons de nos 20 ans. Je ne sais pas si vous vous représentez des oiseaux de passage qui profitent de leurs 20 ans. Ça doit être un peu déplumé. Et ça finissait par vive champagne et piston.
C'est tout à fait joli ça. Mais ce sont des chansons dans les chœurs. Somme toute là, vous n'étiez qu'une, si j'ose dire, une modeste choriste.
Oui, une très modeste choriste.
Très modeste choriste. Mais alors, toute seule, quand vous avez chanté, alors vraiment une chanson seule.
Seule?
Oui, voilà.
Oh là là, alors c'est beaucoup plus tard ça. Oh, c'est dans une opérette de Maurice Yvain. Une délicieuse opérette, pain sur la bouche. Ivan qui a fait pour cette opérette une partition adorable avait eu la gentillesse, la bonté, la générosité de me faire un petit air pour moi toute seule. J'arrivais en concierge et je chantais par le trou, par le trou, par le trou de la serrure. C'était très gentil, mais j'avais une peur horrible. Vous savez, chanter derrière un piano, ce n'est rien. Mais chanter avec des instrumentistes et un chef, des gens qui vont leur petit bonhomme de chemin, sans penser à vous attendre quand vous vous trompez, c'est épouvantable. J'étais tellement émue que le jour de la générale, en tramway, j'ai regardé fixement une dame que je ne connaissais pas, qui était en face de moi, et je lui ai dit, madame, ce qui a des frayons, n'est-ce pas, c'est l'orchestre.
Voilà.
Cette dame a paru saisie, et je suis descendue de tramway. Et le soir, mon Dieu, ça s'est bien passé, je vais vous dire pourquoi. Les spectateurs avaient entendu pendant trois actes des gens qui chantaient juste. Je suis arrivée, j'ai chanté très faux, ça les a soulagés, ça les a amusés. Mon Dieu, ils ont été gentils.
Et vous en faites un très joli succès.
Oh non, mais ils ont ri. Ils se sont dit, pourquoi est-ce que cette femme chante? Voilà tout.
Eh bien, madame Pauline Carton, vous ne vouliez pas nous donner d'interview. Vous ne nous avez pas donné l'interview, n'est-ce pas?
Non,
bon, nous sommes bien d'accord.
Nous sommes d'accord.
Mais enfin, nous sommes vraiment très contents quand même d'avoir de si jolis souvenirs.
Vous êtes infiniment gentil. Au revoir, monsieur.
Ce fruit défendu vous est donc inconnu. Ah, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril?
Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu me rattrapait, vois-tu, tout le temps perdu.
Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose.
Ah, si les palétuviers te font entretenir, je veux bien essayer.
Ah, viens, soufflez pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens en sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les vieilles. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor, mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser.
Un vertige m'éblouit, un baiser c'est exquis, mais dès qu'il l'aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris.
Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mes prix, car je suis pris mignonne.
Mon cœur est tout aux abois, je te donne mon roi, mon corps au fond des bois.
Ah, viens sous les pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les vieilles. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Les palétuviers roses, aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les vieilles. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais.
L'irrésistible Pauline Carton, ici en duo avec Koval, cet acteur comique qu'adorait Alain René, je me rappelle, et puis qui chantait souvent les rôles d'anglais ou d'américain dans les opérettes d'avant-guerre, comme celle-ci, Toi c'est moi. C'était en 1934 et ça clôturait cette série de documents d'archives que nous avons terminé avec les souvenirs de Pauline Carton. Mais il est temps maintenant de retrouver, sans plus attendre, Serge et Laïc. Serge.
Bonjour cher Benoît.
Eh ben, je suis très heureux de vous retrouver. Alors je vous ai demandé pour cette émission spéciale Noël de finir en beauté,
oui,
avec vos orchestres les plus brillants, les plus séduisants,
oui,
que nous offrons à tous nos auditeurs.
Eh bien moi je vais vous en offrir quelques-uns de ces grands orchestres grâce donc à divers solistes et chefs d'orchestre très à l'aise dans le domaine de la musique de divertissement, à commencer par l'américain Félix Slatkin et ses cordes fantastiques.
Thank you.
hornpipe du pêcheur, Fisher's Hornpipe. C'était Félix Slatkin et ses cordes fantastiques en 1962. On peut préciser, hein, Serge, que Félix Slatkin est le père de Leonard Slatkin qui a dirigé jusqu'à l'an dernier l'Orchestre National de Lyon.
Tout à fait. Alors, c'est avec un cadeau concocté par notre regretté ami Pierre-Marcel Onder, dit PMO, que vous adorez aussi, que nous allons poursuivre. PMO avait produit en 1966 l'album de Michel Laurin, Percussions hors série. Michel Laurin est le fils du célèbre compositeur Étienne Laurin, souvent associé à Bourvil. Là, je vous propose d'écouter Le Voyage de noces, une marche comique où Michel Laurin dévoile tout son talent percussif, accompagné par un grand orchestre. Une multitude de bruitages se succèdent avec klaxons, coucous, sifflets, coups de revolver et j'en passe. Voyage de noces avec aux percussions l'excellent Michel Laurin, que j'avais eu la joie d'ailleurs de recevoir dans cette émission, avec ce morceau et tous ses pseudonymes, parce que c'est signé Fred Fried, qui était en fait Friedrich Goldbaum, et l'orchestre est celui de Jack Nilsson, qui est en fait André Carrado. Voilà. Tout à fait.
Un disque vinyle dont j'ai la pochette, comme toujours avec Serge Laïc, de 1966.
Disque PMO.
Disque de Pierre-Marcel Onder.
Alors, c'est ensuite Reginald Kilbey, un maître incontesté de la musique légère anglaise, qui entre en scène. Il avait d'abord joué comme violoncelliste avec le réputé Palm Court Orchestra. Puis, devenu chef d'orchestre, eh bien, Reginald Kilbey, homme plein d'humour par ailleurs, enregistrera quelques albums voués à la musique légère et notamment le très typique morceau Happy Times.
le style inimitable et joliment sucré des cordes de la musique anglaise. Hein,
tout
il y a vraiment
fait.
Une touche particulière.
Complètement.
Ici, Reginald Kilbey et son orchestre dans Happy Times en 1965. Serge Elaïc.
Alors, nous restons en Grande-Bretagne, cher Benoît, et bien qu'il soit un peu tôt, c'est déjà l'heure du thé pour l'incontournable pianiste Russ Conway, célèbre pour ses interprétations au piano bastringue. Il joue là China Tea, le thé chinois donc, une musique qu'il avait composée à la fin des années 50.
L'excellent piano bastringue de Russ Conway dans China Tea, encore sous un pseudonyme d'ailleurs, Trevor Stanford. Je sais pas pourquoi, hein, Serge. Ce genre de musique, ils ont tous plein de pseudonymes.
C'est peut-être que Trevor Stanford, c'était pas très commercial, je suppose, et que Russ Conway, ça passait beaucoup mieux. Voilà.
Voilà. Alors, en tout cas, on écoute aujourd'hui les petites merveilles que vous avez choisies pour nous en ce jour de Noël, les grands orchestres de musique légère. Vous en avez encore deux à nous faire découvrir.
Tout à fait. Alors, nous repartons cette fois-ci outre-Atlantique avec l'orchestre du grand violoniste virtuose Herman Klebanov qui joue un morceau formidable.
C'est
qui
son
s'appelle...
vrai nom, celui-là? C'est un vrai
nom? Oui, c'est le véritable nom. C'est vrai. Vous avez raison de poser la question. Le morceau s'appelle Strings of Fire, traduisez les cordes en feu, une musique très brillante par un orchestre vraiment au top.
Thank you.
les cordes en feu d'Hermann Klebanov et son orchestre en 1962.
Alors Benoît, je conclue cette chronique par un extrait de Holiday for Strings, Vacances pour les cordes, tube, vous le savez, du chef d'orchestre David Rose, joué ici par Klaus Wunderlich, votre organiste préféré.
Que vous me faites plaisir, mon cher.
Et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël.
Holiday for Strings par Klaus Wunderlich. Merci pour ce beau cadeau de Noël, mon cher Serge Laïc.
Eh bien, ce fut un grand plaisir d'être avec vous.
Et on se retrouve bien sûr le mois prochain.
À bientôt.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse d'Incan, réalisation Louise André. On se retrouve samedi prochain, mais je serai en direct et en duplex entre France 2 et France Musique pour vous présenter le concert du Nouvel An. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.